La première fois que je suis allé en colonie de vacances, j'avais 10 ans. C'était très loin de chez moi et pour tout un mois. Je me souviens que j'avais des coups de cafard, ce qui fait que j'appréciais vraiment beaucoup recevoir une lettre de ma maman. Quand j'ai fait l'armée, j'étais aussi très loin, à Trèves, en Allemagne, mais je n'avais plus de coups de cafard, heureusement. Par contre, j'aimais toujours recevoir des nouvelles du pays. Au premier siècle de notre ère, les croyants étaient disséminés un peu partout dans l'Empire romain, loin des apôtres, leur soutien spirituel, et en plus, ils devaient vivre dans une société qui leur était très hostile. Alors, quand ils recevaient une lettre de l'un des apôtres, elle leur était extrêmement précieuse et circulait d'église en église. Je commence à lire le premier chapitre de l'épître de Pierre. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. » Verset 1. La salutation d'introduction est la forme habituelle qui était utilisée dans les correspondances du premier siècle de notre ère. Les épîtres de l'apôtre Paul commencent généralement de la même façon en identifiant à la fois l'auteur et les destinataires de la lettre. Le nom Pierre est la traduction grecque de l'araméen Céphas, nom que Jésus donna à Simon lorsqu'il l'appela à devenir son disciple. L'apôtre Jean explique comment cela s'est passé. Un jour, Jean-Baptiste, voyant Jésus qui passait, a dit à ceux qui l'entouraient « Voici l'agneau de Dieu ». C'est alors que deux de ses disciples se mirent à suivre Jésus. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « le Christ ». Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien on t'appellera Céphas », ce qui veut dire « Pierre ». Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, personne d'autre dans le Nouveau Testament ne peut être identifié comme Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Cette affirmation d'autorité apostolique que fait Pierre de lui-même est authentique car non seulement le texte le dit, mais depuis le premier siècle, les apôtres puis les pères de l'Église ont reconnu que cette lettre était inspirée de Dieu. C'est à partir de la Pentecôte que Pierre est devenu à l'image de son nom inébranlable dans sa foi. Quand il était Simon, il avait les pieds tendres, mais après avoir reçu l'Esprit de Dieu, il fut métamorphosé. Il a goûté de la prison à cause de sa détermination à rester fidèle à son maître Jésus-Christ. On l'a menacé, mais il n'a pas bronché, et pourtant, il savait qu'il finirait martyr. En effet, après la résurrection, et lors de la longue entrevue éprouvante qu'il a eue avec Jésus, ce dernier lui a dit « Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Pierre dit avec justesse qu'il est apôtre. Son nom apparaît toujours en tête de chaque liste des 12 et il était souvent leur porte-parole, jouant donc le rôle de chef. Pourtant, il n'a fait qu'accomplir la tâche que Jésus lui a confiée sans jamais se proclamer supérieur aux autres apôtres. Quand l'apôtre Paul est allé à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres, il a parlé avec Pierre, Jacques et Jean parce qu'il les considérait comme les colonnes qui soutenaient l'Église. Cependant, Paul n'est pas venu pour être enseigné par ces hommes. En effet, il écrit que c'est par une révélation de Jésus-Christ lui-même qu'il a reçu les connaissances qu'il possédait en matière de doctrine chrétienne. Dans cette première épître, Pierre s'adresse à ceux qui sont dispersés dans 5 provinces d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Le mot pour « disperser » est utilisé à 2 autres reprises, mais avec l'article défini, parce que c'est alors un terme technique qui désigne spécifiquement les Juifs éparpillés un peu partout suite aux déportations des 10 tribus du Nord par les Assyriens et du royaume de Juda par les Babyloniens. Mais ici, dans l'épître de Pierre, « disperser » n'a pas d'article et signifie simplement les croyants qui vivent hors de la Palestine et en particulier ceux des 5 provinces citées. Dès la première phrase, Pierre sélectionne ses mots avec soin dans le but d'encourager immédiatement ses lecteurs. Les croyants ont été choisis par Dieu, dit-il, non par le hasard ou un coup de chance, mais par l'élection inconditionnelle et souveraine du Dieu éternel et tout-puissant. Avant l'instauration de la Nouvelle Alliance et de l'Église, seule la nation d'Israël pouvait revendiquer ce privilège. Pierre commence donc sa lettre en mentionnant la doctrine de l'élection qui est directement liée à la souveraineté de Dieu, deux sujets qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre parce qu'ils froissent les âmes sensibles. En fait, ce sont ceux qui se croient importants qui refusent à Dieu le droit de choisir les élus. Mais qui d'entre nous oserait dire qu'il a la capacité de comprendre le caractère de Dieu et sa façon d'agir? Un prophète, parlant au nom de l'Éternel, dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Il est donc normal et pas du tout étonnant que certains concepts bibliques sont en conflit avec les sentiments et les points de vue de l'homme charnel, psychique, qui de naissance et de nature est ennemi de Dieu. La doctrine de l'élection est clairement enseignée dans les Écritures et sans la moindre ambiguïté. Jésus a dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit que tous les habitants de la terre adoreront la bête, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Pierre appelle les élus des hôtes de passage, des immigrés en somme. Le mot ainsi traduit souligne à la fois la nationalité étrangère et la résidence temporaire des personnes désignées. Les croyants n'appartiennent pas à ce monde. L'apôtre Paul écrit « Nous sommes citoyens du royaume des cieux ». De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Au milieu d'une société païenne, les fidèles à Jésus-Christ vivent comme des pèlerins et des voyageurs de passage, des personnes déplacées. Ceux à qui Pierre s'adresse étaient dispersés dans 5 provinces romaines, ce qui représente environ les 3/4 de la Turquie. Pierre désire que le plus grand nombre possible de croyants lisent sa lettre parce qu'il sait que de sévères persécutions ne vont pas tarder. Il veut donc les réconforter d'avance en leur rappelant qu'ils avaient été choisis par Dieu, qu'ils possédaient une espérance et un héritage dans les cieux. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Paul a exercé un ministère dans 2 des 5 provinces citées, en Galatie et en Asie, mais on ne sait pas comment la bonne nouvelle est parvenue dans les 3 autres. Paul a bien essayé d'aller en Bithynie, qui se trouve au nord-ouest de l'Asie mineure, près du détroit du Bosphore, mais Dieu l'en a empêché sans qu'on sache pourquoi. Aquilas et sa femme Priscille étaient originaires de la province du Pont et peut-être y sont-ils retournés. On sait qu'ils se sont convertis à Rome et ont travaillé avec Paul. À la Pentecôte se trouvaient des Juifs de la Cappadoce. Certains ont cru en Jésus-Christ et probablement ramené la bonne nouvelle chez eux. Il se peut aussi que des disciples de Paul ou un apôtre, et même Pierre lui-même, aient évangélisé différentes provinces d'Asie mineure. Je continue le texte. « Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordé. Verset 2. Pierre pose ici les fondements théologiques de son épître. Les croyants ont été choisis d'avance par le Père, consacrés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Les trois personnes de la Trinité sont mentionnées, ainsi que leur participation respective au salut de l'homme. Dans le premier verset, Pierre s'adresse à ceux que Dieu a choisis, et ici il dit qu'ils ont été choisis d'avance. L'apôtre répète le même concept, mais avec un mot différent qui veut dire sélectionné et qui a donné pronostic en français. Dans les Écritures, ce mot désigne l'intention éternelle de Dieu de choisir des pécheurs et d'établir avec eux une relation personnelle en les prédestinant au salut. Ce sont ceux que Jésus appelle ses brebis. « Je suis le bon berger, dit-il. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » L'élection est un choix de Dieu concernant une action future par rapport à nous qui vivons dans le bocal espace-temps, car pour Dieu, le temps n'existe pas. Pour lui, il n'y a ni passé ni futur, mais tout est un éternel présent. Ce n'est pas facile à comprendre. Cette élection, dit Pierre, est conformément au plan de Dieu, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ce qu'il a déterminé d'avance. L'élection n'est donc pas fondée sur un mérite quelconque de ceux qui sont choisis, mais uniquement sur la grâce de Dieu et sur son amour pour les élus de toute éternité, avant même la création du monde. L'élection n'a donc rien à voir avec le fait que Dieu a une connaissance surnaturelle du futur et il ne décide pas en fonction de ce qu'il voit se passer. Il est vrai que le déroulement du temps est devant Dieu depuis toujours et il sait d'avance qui va accepter son fils Jésus comme sauveur. Cependant, ne deviennent croyants que ceux qui ont été prédestinés. L'élection est la cause et le salut l'effet. Dieu ne subit pas les événements, il les dicte. Plus loin dans le chapitre, Pierre utilise une forme verbale du mot traduit par « choisi d'avance ». En parlant de Jésus, il dit que dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi. Or, il est bien évident que Dieu n'a pas scruté le futur pour s'assurer que Jésus accepterait de mourir avant de le consacrer comme sauveur. De toute éternité, il était dans le plan de Dieu, d'une part, que son fils serait crucifié pour ôter les péchés du monde, et d'autre part, qu'il choisirait les élus. Dans un cas comme dans l'autre, Dieu n'a pas une simple connaissance de l'avenir, mais de toute éternité, il a décrété l'histoire. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et qu'il est foncièrement pécheur, il n'a pas la capacité en lui-même de chercher Dieu et encore moins de le trouver. En effet, comment savoir si ce sont les musulmans, les hindous, les mormons, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, les catholiques ou un autre système de croyance qui détient la vérité? C'est tout simplement impossible. L'homme livré à sa petite jugeote ne peut pas accéder à la vérité. Si Dieu n'avait pas choisi d'avance les élus, il n'y en aurait pas un seul. L'apôtre Paul écrit « Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » L'apôtre Jean écrit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Dieu a un plan qu'il suit méthodiquement et il ne change pas d'avis en cours de route. Tout comme un pilote suit son plan de vol, Dieu exécute chaque détail de son programme comme il l'a prévu. De toute éternité, il a décrété qu'il permettrait à Satan et au premier homme de se rebeller contre lui et ainsi de tomber dans le péché. Ensuite, il a décrété qu'il choisirait la nation d'Israël pour son peuple, puis qu'il enverrait son Fils pour racheter ceux qu'il avait prédestinés, choisis d'avance. Je sais très bien que l'élection est un concept qui heurte nos sentiments, mais c'est ce que les Écritures enseignent. Celui qui sait qu'il a été choisi pour le salut sans qu'il sache pourquoi, sinon que Dieu a un amour particulier pour lui, comprend aussi qu'il n'a pas un iota de mérite et donc pas la moindre raison de s'enorgueillir. Sa foi, son obéissance et tout ce qu'il peut faire pour Jésus-Christ, même donner sa vie, sont des capacités qui ne viennent pas de lui, mais de Dieu. La doctrine de l'élection humilie, mais Dieu fait grâce aux humbles. Pierre dit « Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous lui avez été consacré par l'Esprit ». L'élection se traduit concrètement par l'action du Saint-Esprit qui œuvre dans la vie d'une personne. C'est lui qui actualise le plan de Dieu et en fait une réalité dans la vie des élus. Cette consécration par l'Esprit, généralement appelée « sanctification », consiste à séparer le croyant des valeurs de ce monde et à l'inciter à vivre en accord avec le caractère et la volonté de Dieu. Dans le chapitre suivant, Pierre écrit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » L'Esprit consacre le croyant en le mettant à part pour Dieu. Il l'arrache des ténèbres de l'incrédulité et le place dans la lumière de la foi. Il l'éloigne du péché et le conduit dans la justice. Tout au long de la vie du croyant, le Saint-Esprit l'épure afin qu'il devienne plus présentable, pour ainsi dire, et même irréprochable. Cette consécration progressive est la mise en œuvre du plan d'élection dans la vie du croyant qui commence sur terre avec l'obtention du salut et la vie éternelle et s'achève dans le ciel avec la glorification. Ensuite, Pierre rappelle aux croyants qu'ils ont été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ. Le mot pour obéir signifie prêter l'oreille. C'est en effet la responsabilité de l'homme que de se soumettre à l'enseignement de ce que Dieu dit dans sa parole. Celui qui vit dans l'obéissance est purifié par le sang de Jésus-Christ, écrit l'apôtre Jean. Cette obéissance est l'un des effets de l'élection divine. D'ailleurs, l'apôtre Paul utilise l'expression « l'obéissance de la foi » comme synonyme du salut. Et dans sa première épître, l'apôtre Jean enseigne que le salut authentique d'une personne se mesure à son obéissance à Jésus-Christ. Même si les croyants ne sont ni parfaitement ni complètement obéissants, la trame globale de leur vie est l'obéissance à Dieu. Non seulement Pierre rappelle à ses lecteurs que Dieu le Père vous a choisi d'avance pour obéir à Jésus-Christ, mais aussi à être purifié par l'aspersion de son sang. Ce vocabulaire est évidemment emprunté au sacrifice de l'Ancienne Alliance où l'aspersion du sang d'un animal égorgé purifiait les objets et les personnes. Ce rituel était une préfiguration de la mort du Christ qui nous purifie de nos péchés. L'alliance entre l'Éternel et le peuple hébreu avait été scellée par le sang, ce qui est rappelé dans le Nouveau Testament. Je lis le passage. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Le sang versé est la preuve que les deux parties contractantes se sont engagées l'une envers l'autre et ceux qui étaient aspergés avec le sang étaient mis symboliquement au bénéfice du sacrifice offert. Selon l'Ancien Testament, le peuple a été aspergé de sang une seule fois au moment de la conclusion de l'alliance de la loi. Le sang que Jésus a versé sur la croix constitue le sceau de l'alliance entre Dieu et les individus qui ont mis leur foi en son Fils. Quand quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, il se met d'une part au bénéfice de son sacrifice expiatoire, mais d'autre part, il accepte aussi de se soumettre à son autorité souveraine. La salutation de Pierre se termine par « Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées ». Elle se trouve également dans sa seconde épître. Les apôtres Paul et Jean font des souhaits similaires à ceux de Pierre. Tous désirent que les destinataires de leurs lettres parviennent à connaître toutes les bénédictions réservées aux élus de Dieu. C'est là l'un des objectifs principaux des textes sacrés, anciens et Nouveau Testament.